Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal présenté par Noéla Luzitu Kabambi.
Plus de 7000 ménages des déplacés hébergés dans la ville de Béni ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence, même ceux vivant dans des familles d'accueil, elles-mêmes déjà démunies. L'alerte est du responsable de la protection civile dans la région. Jean-Paul Kapitula l'a dit mercredi au chef intérimaire de la MONUSCO et coordonnateur humanitaire à RDC en mission à Béni, au Nord Kivu. De plus en plus des cas de banditisme sont enregistrés dans la commune de Karisimbi, ville de Goma, au Nord Kivu. En deux jours, deux personnes ont été tuées, trois autres blessées par balle et une dizaine de maisons dévalisées. Les jeunes de la commune de Karisimbi dénoncent ces situations et demandent à l'autorité urbaine de prendre au sérieux la question d'insécurité dans la ville de Goma. Docteur Désiré Aloumeti est l'invité de ce journal. Il est gynécologue obstétricien à la clinique Panzi de Bukavu. Il va parler de la campagne ici à Kinshasa des opérations gratuites des malformations anorectales et fistules chez les enfants. Campagne qui s'est clôturée le samedi 6 juillet dernier. Bonjour à tous. Au Nord Kivu, au moins 7000 ménages de déplacés hébergés dans la ville de Béni nécessitent une assistance humanitaire d'urgence. C'est Jean-Paul Kapitula, responsable de la protection civile dans la région, qui l'a dit mercredi au chef intérimaire de la MONUSCO et coordonnateur humanitaire en RDC en mission à Béni au cours d'une rencontre avec le maire de la ville entouré du comité urbain de sécurité. Jean-Paul Kapitula est revenu sur la situation de ces personnes qui, selon lui, vivent sans assistance humanitaire dans des familles d'accueil, elles-mêmes déjà très démunies à cause de l'insécurité. Ces déplacés ont fui les attaques des ADF dans le territoire de Béni et l'avancée des rebelles du M23 dans le territoire voisin de Lubero. Jean-Paul Kapitula, responsable de la protection civile dans la région, explique au micro de Martial Papimokeba.
Autour du maire, nous lui avons parlé clairement de la situation insupportable que nous pouvons qualifier de catastrophique des déplacés dans la ville de Béni. Et que ces déplacés vivent dans des conditions incroyables et surtout dans des familles d'accueil qui ne savent plus aller trouver à manger. Surtout que la quasi-totalité de la ville de Béni, population, vivent des champs. Et vous-même, vous le savez, nous sommes encerclés par l'ennemi partout et personne ne peut accéder aux champs. Au jour du 10 mai 2024, on a enregistré 4994 ménages de déplacés dans la ville de Béni. Mais à l'heure actuelle, deux mois passés, nous avons l'estimation de 3000 autres ménages qui se sont ajoutés. Et tout cela sont dans des familles d'accueil et ils n'ont pas d'assistance jusque-là. Nous avons plaidé pour une assistance urgente, mais aussi compte tenu de ce qui est en train de survenir dans le sud de Lubero, nous avons pensé qu'il est mieux actuellement que les humanitaires autour de l'autorité pensent comment appuyer un plan de contingence.
Au sud Kivu, les sinistrés du site de Katachola, territoire de Kalehe, sont aussi confrontés au problème de manque de nourriture. Ce sont des familles qui ont perdu les toitures de leurs abris à la suite d'un vent violent. Depuis 7 mois, ces sinistrés n'ont pas reçu l'assistance alimentaire des organisations humanitaires qui les prennent en charge depuis la survenue de cette catastrophe. Jean Kassami nous fait le point.
Une équipe des autorités et de la société civile locale a visité hier les 4 sites qui hébergent les sinistrés, y compris le site de Katachola dont les abris ont perdu les toitures suite au vent violent. Kasole Ngonyozi, président de la société civile de Kalehe, décrit la situation.
Je viens de visiter presque tous les camps de sinistrés, les sites Amani, Katachola, Luako, Nyamukubi. Donc, il y a plus de 7 mois que les organisations ou les ONG n'ont pas intervenu ou donné à manger à ces sinistrés du 4 mai 2023. Et donc, il y a même qui sont morts si on manque de la nourriture.
Plus de 186 abris d'urgence, 8 toilettes et 7 douches construits par le partenaire APDC, RDC et ZOA sont totalement détruits. Environ 200 familles de sinistrés et 573 familles de déplacés de guerre passent des nuits à la Belle Étoile. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Restons dans le sud Kivu, où une vingtaine de femmes de Nyamugo, un des quartiers populaires de la ville de Bukavu, suivent une formation d'entrepreneuriat en arts et métiers. Cette formation de 3 jours s'est clôturée hier 11 juillet à l'Institut français de Bukavu sous le thème « Devenez entrepreneur de demain en apprenant ». C'est dans le but d'aider ces femmes à sortir de l'oisiveté, de mauvaises pratiques et de leur permettre de s'autonomiser en apprenant différents métiers qui pourront leur apporter plus tard. Rachel Kessimbaro pour les détails.
Comment créer une entreprise et la gérer, mais aussi l'apprentissage en pâtisserie, la coupe et couture, la transformation et valorisation des déchets textiles, la savonnerie, le perlage. Ce sont là quelques matières qui sont dispensées dans cette formation. Francine Luangui fait partie des organisateurs.
On a vu que chez les femmes, il y a une insuffisance. Beaucoup de femmes ont des idées, mais elles ne savent pas comment canaliser ces idées. À travers la formation sur l'entrepreneuriat, nous leur aidons à comment canaliser les idées, par où commencer et par où chuter. Après, ça sera maintenant la pratique. S'ils créent leurs propres entreprises, au lieu qu'on consomme ailleurs, on va commencer à consommer localement. Et puis, ils vont diminuer les taux de chômage.
Cette formation en entrepreneuriat permet aux femmes de Nyamugo non seulement de cesser avec la consommation abusive de boissons fortement alcoolisées, mais aussi d'apprendre un métier. Karine Feza, bénéficiaire.
Beaucoup de mamans, de nos jours, ils prennent de l'alcool, ils oublient qu'ils ont des enfants qu'ils doivent nourrir. Vraiment, cette formation va nous aider à bien matérialiser ce qu'on nous a inculqué. Personnellement, j'apprends à fabriquer des savons.
Signalons que cette formation est initiée par l'entreprise Rwenja en collaboration avec cette autre entreprise féminine de Bukavu. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Il est toujours possible d'entreprendre quel que soit le contexte ou la situation sécuritaire. C'est ce qu'estime professeur Dadi Salé, expert en management entrepreneurial et incubateur d'affaires. Pour ce professeur d'université, tout ce qui peut se présenter en n'importe quelle circonstance est une opportunité d'affaires pour entreprendre. Ainsi conseille-t-il à la population du Nord Kivu, une population résiliente, de se saisir de toute occasion et de tout contexte pour en faire une opportunité d'affaires. On écoute cette analyse du professeur Dadi Salé au micro de Denise Loukesson.
Quand les gens se déplacent, par exemple, vous comprenez que l'entrepreneuriat dans tous les sens, même dans le camp. Maintenant, il faut juste orienter les choses dans le bon sens. Parce qu'effectivement, déplacés ou pas, eh bien, les gens doivent manger. Et les gens entreprennent. Vous voyez, même dans les camps de Mougoum, on a beaucoup d'entrepreneurs. Et oui, il faut comprendre que même en temps de guerre, il y a des gens qui fabriquent les armes. Des bottes, ils entreprennent. J'ai proposé au gouvernement congolais depuis un temps de faire de l'économie de guerre. J'ai dit, par exemple, comme nos militaires doivent manger, normalement, dans l'économie de guerre, le premier bénéficiaire en tant qu'entrepreneur devait être, par exemple, les enfants de Beni, les Goma, des Rutshuru. C'est eux-mêmes qui doivent effectivement entreprendre pour répondre à ces besoins-là. Et c'est possible. Donc, ça ne veut pas dire que quand on se déplace ou bien quand on est en train d'être tué, qu'on ne peut pas entreprendre. Non, au contraire, puisque en entreprenant, ça fait en sorte que beaucoup de gens ne vont pas aller dans des groupes armés et les gens vont se retrouver. Il faut que l'esprit entrepreneurial soit avec nous chaque seconde. Si on n'entreprend pas, eh bien exactement, les Chinois, les Américains et les autres viennent entreprendre à notre place. Donc, il faut un esprit assez ouvert pour arriver à des solutions idoines et qui répondent aux besoins de la communauté.
Parlons situation sécuritaire dans la province de l'Ituri. 50 barrières illégales sont érigées depuis quelques mois par les militaires FRDC et d'autres services de l'État sur le tronçon Mambasa-Makeke. Ces derniers se livrent aux tracasseries des usagers de la route qui s'en plaignent. Constat fait mercredi par la nouvelle société civile congolaise au cours d'une assemblée générale qui s'est tenue à Mambasa-Centre. L'armée parle de postes de contrôle pour la sécurisation des personnes contre les menaces de l'ennemi, dont les ADF dans cette entité territoriale. Ezekiel Mouzalia.
60 acteurs membres de la société civile de Mambasa ont passé en revue la situation sécuritaire dans ces territoires. C'est par exemple sur les tronçons Mambasa-Makeke ainsi que sur les routes de desserte agricole où ils ont repéré environ 50 barrières illégales érigées par des militaires des FARDC ainsi que d'autres services étatiques. Le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise indique que ces agents de l'ordre tracassent la population et collectent des taxes qui asphyxient la population, des pratiques qui, selon Jospin Mboa, sont contraires à leur mission de protéger les civils.
Un militaire qui a érigé une barrière, d'abord pour des raisons de contrôle, pour savoir qui entre, qui sort dans l'entité. On ne contrôle plus les cartes d'électeurs au niveau de ces barrières.
L'armée rejette ces allégations et affirme avoir érigé plutôt des postes de contrôle. Le lieutenant Jules Ngongo indique que tout militaire qui se livre aux tracasseries sera sanctionné.
Ce sont des barrières de surveillance, ce sont des barrières purement sécuritaires, des contrôles. Tant que l'environnement opérationnel nous demande d'être très vigilants, de temps en temps, vous voyez, il y a des barrières, des checkpoints, des contrôles.
La société civile demande le relèvement du commandement Sokola 1 du Nord Kivu qui assure le contrôle de plusieurs agglomérations du territoire de Mambasa en Ituri. Bunia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Retour au Nord Kivu. Les habitants de la commune de Karisimbi dans la ville de Goma sont outrés par la montée du banditisme à travers les différents quartiers. De mercredi à hier jeudi, on dénombre 2 morts, 3 personnes blessées par balle et 10 de maisons cambriolées et certaines même complètement dévalisées. Les auteurs de ces forfaits ne sont toujours pas identifiés. Chris Mukande.
Ce jeudi matin, sur l'avenue Bamaté au quartier Kasika, non loin du terrain des scouts dans la commune de Karisimbi, des coups de feu retentissent autour de 8 heures locales. Un homme est abattu devant sa résidence par 2 individus roulant en moto qui ont disparu dans la nature. Un drame qui survient alors que la population en était encore à s'interroger sur ce qui s'est passé hier soir au quartier Ndocho. Ici, une dame, vendeuse de pain, a été atteinte par des balles tirées par des inconnus. Elle est décédée sur le champ. Dans la même soirée, l'on signale 3 personnes blessées par balles sur l'avenue Kanyamuranga au quartier Mugunga. Il est fait également état du vol dans 10 d'habitations. La jeunesse de la commune de Karisimbi, qui dénonce cette situation, invite l'autorité à se pencher sérieusement sur la problématique du banditisme. Claude Rougaud, président de cette structure.
Chaque fois, il y a des fusillades, cambriolages. Les quartiers Mugunga et Ndocho sont les quartiers les très sensibles pour le moment. Nous sommes en train de prier aux autorités qui fassent tout pour que la paix revienne. La sécurité n'est pas un cadeau aux citoyens, mais plutôt c'est un droit. Nous devons avoir la paix dans Mugunga, dans Ndocho et dans d'autres quartiers de la commune.
Cette recrudescence du banditisme survient après quelques semaines de calme relatif dans la commune de Karisimbi. Chris Mukande, Goma, Radio Kapi.
Au Maniema, la province dispose désormais d'un bazar intercommunautaire. Il a été installé et présenté aux autorités le mercredi. Son président, Ala Hadji Mwamba Bitulu, fait savoir que parmi les objectifs de la bazar intercommunautaire, il y a la résolution pacifique des conflits et la promotion du secteur agricole dans la province. On l'écoute dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Je veux commencer par un principe africain. L'homme n'est rien sans l'autre. Ce qui veut dire que le bazar intercommunautaire vient pour soulager les maux qui rongent notre société. Nous le voulons bien que nous soyons non seulement accompagnés, mais que tout le monde adhère. Ce n'est pas une institution de pouvoir, mais nous constituons une institution citoyenne pour assister les cœurs qui chavirent du mal. Et le Maniema fit publicité grenier agricole. À l'époque, le riz du Maniema servait la province orientale, le Katanga, les 2 Kasaï. Aujourd'hui, il y a le riz qui vient de la province orientale pour nourrir les fils et filles du Maniema. Pour ne pas aller loin, vous êtes en train de suivre les radios du jour au jour, même ce matin, des querelles. Il n'y a pas de respect mutuel. Qui est leader au Maniema et qui ne l'est pas? Tout simplement parce qu'il y a eu un vide de la sagesse. Notre porte sera ouverte, nos pieds seront sur la route pour aller vers celui qui a du chagrin.
La délivrance des duplicata des cartes d'électeurs se poursuit sur toute l'étendue du pays. À Kinshasa, ils sont nombreux à se rendre aux antennes de la CENI pour avoir soit perdu la carte d'origine, soit parce que la photo et les écrits se sont effacés. L'opération se fait désormais 2 fois la semaine, 3 fois sur certains sites. À l'antenne de Ngaliema, on atteint jusqu'à 600 duplicata délivrés par jour, selon des sources sur place. Le point avec Mnozaya Masiki et John Chibwabwa.
La délivrance des duplicata prend moins de temps que celle des cartes d'origine. L'opération est gratuite, mais ceux qui ont perdu leur carte doivent présenter un procès-verbal obtenu à la police, moyennant 10 000 francs congolais. Exaucé Mbambi, agent de la CENI à Lingwala.
Ils sont disponibles pour remettre les duplicata pour les 5 communes de Lukunga. Si la personne amène la sienne carte, si les écrits qui se voient plus, il écrit le nom sur la liste, il va patienter pendant 10 minutes, puis il va avoir sa carte. Mais si la personne qui a perdu sa carte, Il y a derrière nous la poste et la police. Il va aller pour faire les PV.
Pourtant, des cas de monnayage ont été signalés à Lemba, par exemple, il y a quelque temps. Jean-Baptiste Itipo, directeur de communication de la CENI, affirme que ses agents ont été rappelés à l'ordre. Il insiste sur le caractère gratuit de cette opération qui va se poursuivre jusqu'à la fin du cycle électoral.
Nous avons été informés de cela. Nous avons fait part de l'information à Madame secrétaire exécutive provinciale de la CENI Kinshasa, qui à son tour a rappelé à l'ordre le personnel de Lemba pour éviter toute compromission. Il s'agit d'une opération gratuite.
Cette opération se fait généralement le lundi et le vendredi de 8h à 12h juste. D'autres sites, comme celui de Lingwala, le font aussi le mercredi.
Actualité internationale.
Les douanes sénégalaises ont annoncé hier avoir intercepté plus de 360 kilos de cocaïne dans le sud-est du pays où les saisies de drogue se sont répétées ces derniers mois. La drogue contenue dans 338 plaquettes est d'une valeur de 29,2 milliards de francs CFA, soit plus de 44 millions d'euros, était cachée sous le plateau du camion. Les autorités sénégalaises ont multiplié les saisies de cocaïne ces derniers mois en provenance des pays voisins, notamment la Guinée, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Mali, qui sont réputés être des zones de transit pour les drogues produites en Amérique latine en direction de l'Europe.
L'invité.
La clinique Panzi de Bukavu a clôturé le 6 juillet dernier la campagne des opérations gratuites des malformations anorectales et fistules recto-vaginales chez les enfants. Cette campagne a été organisée à Kinshasa dans le but de soigner plus d'enfants souffrant des malformations congénitales et soutenir ainsi les parents démunis. Pour en parler, nous recevons dans ce journal Dr Désiré Aloumeti, gynécologue obstétricien dans la clinique Panzi de Bukavu. Il s'entretient avec Arcel Kajouro.
Docteur Désiré Aloumeti, dites-nous, combien d'enfants avez-vous soigné durant cette campagne?
Nous avons soigné 19 enfants au total, dont 15 filles et 4 garçons. Les garçons aussi, c'était des problèmes liés aux malformations, mais parmi eux, il y avait 2 pour malformation anale et les autres, c'était pour la malformation au niveau du pénis.
Les enfants que vous avez soignés, tous sont déjà rentrés ou bien ils sont encore là pour le dernier soin?
La plupart sont rentrés, mais il y a d'autres qui sont encore là pour les derniers soins parce que les suivis, beaucoup plus pour les malformations anorectales, surtout chez les enfants déjà âgés. Quand je dis enfants âgés, c'est au-delà d'une année, ça prend un peu 21 à un mois de suivi. Un suivi avec des soins locaux qu'on appelle les bains de siège, c'est ce qu'ils sont en train de faire au niveau de la clinique.
Et ce suivi, au cas où ça prendrait un mois, c'est toujours l'hôpital qui assure?
Oui, tous les soins sont gratuits jusqu'à la guérison, donc c'est l'hôpital qui assure. Parce que ça ne sert à rien de soigner et puis laisser les malades dans la rue. C'est ce malade qu'on assiste à des complications qui prochainement deviennent très difficiles à prendre en charge. Et donc notre campagne a été focalisée sur prise en charge totale des enfants souffrant de malformations congénitales.
Par rapport à comment est-ce que les parents sont en train de venir, mis à part le 19 cas que vous avez soigné, il n'y a pas eu d'autres cas?
D'autres enfants qui sont venus et qui devaient donc même venir. Nous avons déjà un programme, un total de 12 enfants qui attendent et je crois que nous allons les prendre en charge lors de la seconde mission.
Et la seconde mission commence quand?
En fait, nous n'avons pas de précision jusque-là parce que nous devons faire rapport au bailleur, au professeur Denis Mukwege qui nous a envoyé ici à Kinshasa. Et la façon dont il va apprécier ce que nous avions fait, il pourra peut-être nous envoyer, revenir dans 3 mois.
Toujours pour les enfants?
Toujours pour les enfants. Et quand on dit enfants, c'est de 0 à 15 ans. Vous voyez que les plus petits que nous avons opérés ici avaient 1 année et les plus grands ou la plus grande avait 15 ans. Donc moi, je soigne les enfants de 0 à 15 ans.
Mais docteur, il y a juste une petite remarque. C'est vrai que les enfants naissent avec des malformations. Mais comment est-ce que la mère peut faire, ne fût-ce que durant la période où elle est enceinte, de se protéger ou pour éviter que l'enfant naisse avec ce genre de malformations?
Généralement, ces malformations surviennent de façon inopinée, donc on n'a pas vraiment une relation cause à effet. Mais si il faut vraiment le prévenir, il faut que les femmes fassent les consultations prénatales, les CPN. Et là, il y a une petite molécule, un petit médicament qu'on appelle acide folique, qui peut aider à prévenir ces malformations. Donc, on a remarqué qu'une carence en acide folique est à l'origine des survenir des malformations qu'on appelle les malformations du type néral, y compris les malformations anorectales. Mais empiriquement, il est dit que Ces malformations surviennent entre un cas et sur 3500 naissances. On en aura toujours chaque fois quand il y a plus de 3500 naissances, il y aura au moins un cas de malformation anorectale.
Alors, vous voulez savoir par rapport aux difficultés rencontrées durant en fait la campagne, bien ces opérations.
Je crois que la première difficulté, c'était les coupures intempestives du courant électrique. Ici, nous avons les générateurs, mais bon, il y a eu vraiment des coupures intempestives du courant. La deuxième difficulté, c'est quand on opère ses enfants, parfois on est appelé à faire des transfusions. Surtout que nos enfants, de façon générale, sont anémiques. Hein. Donc j'ai opéré des enfants avec des taux d'hémoglobine de 10, de 8. Et quand ça saigne, il faut transfuser. Et une poche coûte entre 20$, 30$. Tu vois que c'est énorme. Donc troisièmement, c'est l'accommodation de ce malade. Hein. L'enfant vient avec sa grand-mère et sa maman. Ça fait plus de 3 personnes alimentées. Là, ça pose d'énormes problèmes.
19 enfants, c'est peu en fait, parce qu'il y a plusieurs enfants ici à Kin qui ont quand même des malformations.
Oui, ça paraît être peu par rapport aux malformations de façon générale. Nous avons focalisé notre attention sur les enfants qui n'avaient pas d'anus, qui avaient un problème de malformation anorectale. Les autres enfants souffrant d'autres malformations n'ont pas fait sujet de notre campagne.
Docteur Désiré Lumetti, la radio Okapi vous remercie.